France Culture.
Chicago, how you doing? Thank you, thank you. That's so nice. Thank you very much. I'm so happy to be here. I'm so randomly happy to be alive.
Bonjour le Book Club, bonjour Camille Bordas. J'ai lu votre livre que j'ai trouvé absolument brillant. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment réussi à choisir ce qui m'avait le plus impressionné, si c'est le fait que vous l'ayez écrit en anglais et traduit vous-même, si c'est le talent d'observation que vous mettez en jeu pendant tout ce livre avec les descriptions d'un geste, d'un mouvement, d'un personnage, un art du dialogue absolument génial.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Apprendre à faire rire n'est pas une mince affaire. Le roman au programme de votre Book Club aujourd'hui suit pendant une journée les élèves et les professeurs d'une classe d'improvisation humoristique dans une université américaine jusqu'au soir où doit se tenir la grande représentation qui vient clore le semestre. Empruntant et détournant les codes du campus Nouvelle, Camille Bordas imagine la vie de personnages qui se demandent en permanence comment il ou elle pourrait en tirer des sketchs. Des blagues, ceci est leur pétrole. Y compris ou surtout quand les situations ne prêtent a priori pas à rire, vraie fausse intrusion d'un tireur, maniement d'armes à feu en pleine forêt ou crise d'épilepsie. La romancière, elle, ne semble pas chercher le numéro de drôlerie à tout prix, au contraire, elle sonde les tourments et les petitesses des uns et des autres. Des inconnus à qui parler est le titre de son roman, il apparaît aux éditions de Noël. Camille Bordas est notre invitée, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bienvenue à vous, Camille Bordas.
Merci.
Des inconnus à qui parler. C'est donc le titre de votre roman paru aux éditions de Noël. Ce sera au cœur de notre conversation dans un instant. Le Book Club commence toujours par un questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités en tant que lectrice, en tant que lecteur. Vous avez eu une enfance qui s'est partagée entre plusieurs pays, au moins deux, oui. On va dire, la France et le Mexique. Est-ce que ça a joué dans la géographie de votre vie de lectrice?
J'ai appris à lire au Mexique, justement, quand je devais avoir 3 ans, 3-4 ans. Donc ça a dû jouer, oui, tôt. Peut-être plutôt quand même 4 ans. En fait, je me souviens, ouais, d'avoir appris à lire dans des livres en espagnol. Je ne sais plus comment s'appelaient les livres. Mais sinon, on est rentré du Mexique assez rapidement quand j'avais 6 ans. Mais j'ai appris à lire là-bas. Et ensuite, on est rentré.
Donc vous avez appris à lire en espagnol.
Et un peu dans les deux. J'avais, okay, une école bilingue. Et j'ai appris à lire dans les deux langues, mais tout en apprenant l'espagnol en même temps. Donc je saurais même pas dire mais je lisais pas beaucoup de livres d'enfants. Moi, j'avais toujours très envie de lire ce que lisaient mes grands frères et grandes sœurs. Je suis la dernière de 4, donc j'étais toujours beaucoup plus intéressée par ce qu'ils avaient entre les mains eux, et j'avais hâte d'accéder à leur stade, voilà, de plus grands lecteurs, de plus sérieux.
Et ça lisait beaucoup autour de vous?
Ça lisait pas mal, ouais. Et puis assez. Mes parents eux-mêmes lisaient beaucoup. Mais bon, c'était des choses, c'était surtout mes frères et sœurs qui m'intéressaient beaucoup. Moi, j'avais envie de rattraper le retard.
Alors que c'était tellement intéressant à vos yeux d'enfant.
Les couvertures étaient plus mystérieuses. Alors après, bon, ils lisaient tout le temps, donc il y a des titres qui me reviennent. C'était pour ma grande sœur, elle lisait Le Monde de Sophie. Mon frère lisait Maupassant. Il adorait Les Raisins de la Colère. Alors j'ai essayé Les Raisins de la Colère beaucoup trop tôt, je pense. Et c'est génial. J'ai rien compris. Et je l'ai pas relu depuis, d'ailleurs.
C'est vrai.
Je devrais. Mais du coup, j'en garde un souvenir tellement pénible. Parce que j'essayais d'impressionner, enfin même pas, je sais pas si j'essayais de l'impressionner, mais je me dis bien sûr, je comprends tout à fait ce que tu as vu dans ce film. Ouais. Et ouais, du coup, je pense que j'ai un petit blocage, mais il faut que je le relise effectivement, parce qu'il n'y avait pas que mon frère qui aimait ce livre, donc ça, il faudrait que je m'y remette. Ouais, ouais.
Donc il y avait quelque chose qui vous amenait toujours vers l'étage du dessus dans la bibliothèque.
Oui, tout à fait. Ouais, j'ai l'impression de pas avoir, de pas être passée par le stade. Enfin, si je lisais des Chairs de Poule quand même un petit peu, j'ai beaucoup aimé la série des Bibundé, mais quand même assez rapidement, je voulais aller vers les livres sérieux. Je dirais pas que ça m'a joué des tours, parce que je pense que c'est bien aussi de lire des livres qu'on comprend pas forcément.
Vous pensez à quoi comme expérience à part Steinbeck?
Stendhal. Stendhal, j'ai lu beaucoup trop tôt aussi, mais je me dis, il faut quand même tenir. Je les ai
vus
en entier. Oui, je tiens. C'est censé être un peu difficile. Et du coup, quand il y a des moments de clarté,
ils apparaissent d'autant plus beaux.
Ils apparaissent d'autant plus beaux, mais je l'ai mérité, celui-là. Mmh. Je sais pas, je pense plus vraiment comme ça aujourd'hui. Si ça m'arrive parfois de peiner un peu et d'être récompensée à terme et d'être bien contente d'avoir
De penser
d'avoir
à quelque
assisté.
Chose de récent où vous auriez insisté et vous auriez été récompensée
Peut-être pas récent, mais je vais pas dire que j'ai relu Proust parce que j'avais juste lu du côté de chez Swann. Mais j'ai lu toute la recherche il y a quelques mois. Je trouve que la récompense est belle, mais il y a des moments où, dans le côté de Guermantes notamment, où il faut s'accrocher. Mm-hmm.
Et elle tient à quoi cette récompense pour celles et ceux qui n'auront pas eu votre endurance pour l'instant ?
C'est vraiment c'est vraiment bête à dire, mais des flashs où on se. Et c'est aussi bizarre, étrange de ma part de dire quelque chose comme ça, parce que je pense. J'ai pas besoin de me reconnaître dans les livres pour mm-hmm. les aimer, mais avec Proust en particulier, c'est vraiment. Ou encore une fois, la clarté de l'expression d'une expérience, d'un sentiment que j'ai ressenti moi-même alors qu'on n'avait pas du tout la même vie. Et c'est émouvant, c'est fascinant de se rendre compte qu'on est les mêmes à travers les âges, à travers... Voilà, donc c'est vraiment de... Bah, les livres, c'est pour se sentir moins seul, c'est pour se sentir moins... Oui, enfin, partie d'un grand tout. Et ouais, enfin, voilà, la récompense, elle est là aussi, même dans les... Voilà,
voilà Proust. Vous lisez beaucoup ?
Je lis énormément. Je dirais
depuis même, toujours. Enfin, c'est-à-dire que on vous a attrapé à 4 ans, vous commenciez à apprendre à lire.
Je pense que c'est de pire en pire.
Ok. Voilà,
ouais. Mais je m'en plains pas. Moi, j'adore lire. C'est quand même mon activité préférée. Donc, je vais pas. Personne me force. Hein. Mais c'est vrai que parfois, je me dis que peut-être que si je lisais moins, j'écrirais plus. Enfin, après, le problème, c'est que mon métier, c'est aussi d'écrire. Donc, mais comme j'adore lire, parfois, ça prend le pas sur. Sur mes moments d'écriture. Et oui, donc ouais, je dirais pas que je lis trop, mais c'est vrai que...
Mais c'est quotidien.
C'est quotidien, c'est plusieurs heures par jour, c'est... Ouais.
Vous savez que vous êtes une rareté.
Pardon ?
Vous savez que vous êtes une rareté dans le monde contemporain.
Pas
vraiment à cette table-là,
oui.
Quoi. Plusieurs heures par jour, ça reste quand même quelque
oui.
chose qui vous situe dans le monde. Non, mais
après,
c'est intéressant
oui.
quand même, non ? Je sais pas. Parce que quand je dis vous êtes une rareté, c'est pas pour faire une blague. On aura le temps d'en faire plein tout à l'heure.
Oui.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, consacrer plusieurs heures de sa journée à de la lecture, c'est être à contre-courant d'un discours dominant qui voit le temps de lecture diminuer en permanence, y compris dans les jeunes générations dont vous faites encore partie, Camille Bordas.
Oui.
Merci. Et c'est être dans une temporalité et tout qui n'est pas tout à fait la majorité.
Oui. Oui, oui, ça je me rends compte, d'autant plus que j'enseigne maintenant, donc j'ai beaucoup d'étudiants, en ce moment mes étudiants ont plutôt 19-20 ans et ils ont du mal même à lire un livre par an, à tenir sur la longueur du roman, donc je me rends bien compte que c'est quelque chose qui se perd. Après, moi ce qui me surprend, c'est quand j'entends qu'il y a des gens qui regardent la télé 8 heures par jour, et c'est très très courant, je pense. Après, moi, je ne suis pas complètement fermée à la télévision, il y a des séries que je regarde. Mais 8 heures par jour, c'est énorme et beaucoup de gens le font. Et moi, je pense que je lis 3 heures par jour. Donc, c'est beaucoup moins qu'un temps de télé normal, entre guillemets.
Est-ce que vous cherchez quelque chose dans les livres aujourd'hui ?
Oui, oui, oui. Bah oui, je cherche... non, je ne cherche plus. Je suis en errance. Non, bah, je cherche toujours à être surprise, à être émue. Enfin, c'est vraiment les trucs de base, hein, mais c'est à être... questionner, je sais pas si c'est un anglicisme. Je cherche à réfléchir. Après, moi, j'aime beaucoup les romans. Je vais pas lire beaucoup de livres de philo, mais j'aime bien quand les romans me font réfléchir. Et j'essaie d'en écrire un qui fait aussi réfléchir, même si c'est du roman pur et dur.
Vous êtes récompensée ? Vous trouvez
souvent.
Matière à...
Oui.
Dans le roman contemporain ?
Dans le roman contemporain,
oui.
Oui, bah, y a beaucoup de choses. Après, c'est vrai que... Comme je lis beaucoup, après, je ne sais pas comment je construis mes lectures, mais c'est vrai que je m'intéresse à ce qui sort toujours un peu. Souvent, ça peut être décevant, mais il y a toujours une lecture qui nous emmène vers une autre, et puis vers une autre, et puis vers une autre. Donc, c'est un parcours comme ça, qui n'est pas fait que de nouveautés et de noms que tout le monde connaît. Il y a plein de petits éditeurs aux États-Unis dont personne n'entend jamais parler, mais qui publient une dizaine de titres par an. Et puis, si on s'intéresse au livre, on voit qui édite quoi. Et parfois, on y va un peu les yeux fermés. Ah, bah, c'est Dolky qui a publié ça, je vais y aller. Voilà. Donc, oui, on est
sûr. Et vous y allez quoi dans les librairies ?
Aux États-Unis, c'est compliqué.
Mais justement, c'est aussi pour ça que je pose la question.
Oui, non, malheureusement, c'est pas Amazon, mais c'est un site de libraires indépendants. C'est des libraires indépendants qui vous envoient les livres à domicile, mais ouais.
Mais vous n'avez pas la petite errance dans la librairie française.
Non, j'ai une super librairie à Chicago, mais je ne suis pas souvent à Chicago en ce moment. Donc voilà. Et pour maintenir. Et puis il y a les bibliothèques aussi. Les bibliothèques municipales sont super là-bas. Donc j'achète pas toujours parce que sinon, je n'aurais pas les moyens non plus.
Il y a quoi sur votre table de chevet ou sur votre pile à lire en ce moment ?
Ah bah en ce moment là, comme je suis pas souvent en France et que je viens d'arriver, bah j'ai acheté les livres de la rentrée que je voulais lire parce que voilà. Donc je viens de finir le livre de Laura Vasquez que j'ai adoré.
Les farces.
Qu'est-ce que j'ai sur ma pile de lecture? Oh là là. Je visualise à peu près ce que j'ai. Oui, je...
J'ai une autre question, si vous voulez. Et en plus, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas posée, du coup, ça me fait plaisir. Il y avait une question qui était très récurrente dans les questionnaires de lecture, et puis on l'a un peu abandonnée ces derniers temps, mais c'est l'idée d'avoir un rendez-vous avec une œuvre littéraire, ou bien un livre, ou bien vraiment un territoire, quoi, d'une autrice ou d'un auteur. Vous n'y êtes pas allé encore, mais vous savez que c'est pour vous. Est-ce que ça vous parle, cette idée-là?
Un territoire?
Ouais, est-ce que vous vous dites un jour, ah, je ne connais pas bien, mais vraiment, je suis sûre que... Que ce sera pour moi, ça.
Sans connaître... Non, je vois pas. J'ai l'impression d'être vraiment, vraiment la tête dans le guidon tout le temps. Après, dès que j'ai envie de découvrir quelque chose, en fait, j'y vais.
Oui, vous y allez. Oui, ouais, c'est ça, vous avez l'air.
Je ne sais pas si ce sera pour plus tard. Mais c'est vrai, en fait, en entendant le début de votre question, je me dis, ah, bah, j'aimerais bien aller dans New York des années 60 de Salinger, ou des années 50 plutôt. Mais bon, ça, c'est, je sais que j'aime, j'y suis allée.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Voilà, okay. Mais de choses à découvrir.
Vous avez juste l'intuition, quoi, c'est un nom qui revient à vos oreilles.
Non, mais je suis impatiente. Donc, moi, s'il y a un nom qui me parle, j'y vais directement, je lis tout ce qu'il y a. Et...
Par exemple, moi, j'ai revu hier soir, comme ça, dans la bibliothèque Extinction de Bernard. Je me suis dit, tiens, vraiment, il faut vraiment que j'y aille un jour, quoi.
Allez-y.
Oui, allez-y, bon, bah d'accord.
Non, mais Extinction, c'est celui que je préfère en plus de tous les
Bernards. Bah, voilà, il est dans ma bibliothèque, il m'attend depuis vraiment de très nombreuses années. Ouais. Ok, bon, très bien. Je vais mourir de rire en lisant Extinction.
Ah, peut-être, c'est une possibilité,
ouais. Ok, bonne ou mauvaise nouvelle?
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle. On va parler de votre livre à vous, Camille Bordas, juste après cette chanson interprétée par Billie Holiday en 1938, Everybody is Laughing. Tout le monde rit. La chanteuse s'est vantée d'être aimée et maintenant que son histoire d'amour est terminée, la voilà raillée de tous. C'est une chanson qui touche au lien évidemment entre le rire et la moquerie, qu'on retrouve aussi questionnée dans votre roman, Billie Holiday.
Everybody's laughing, yes, everybody's laughing. They know that you and I are through, and everybody's laughing. I've told the world you loved me and bragged about it proudly. But since they know it's over, they're laughing at me loudly. People love to linger so they can point a finger and tear apart a gal whose heart was taken through the ringer. If we could start all over, the laugh might be on them. But meanwhile, everybody's laughing.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Quand on monte sur scène pour faire rire les autres, quand écrire et faire des blagues est au cœur de notre existence, comment ne pas être obsédé par la transformation perpétuelle de sa vie en matériel à blagues? C'est le cas des élèves d'un master imaginé par vous, Camille Bordas, où des professeurs, plus ou moins bons humoristes, regardent des jeunes pousses se débattre avec leurs aspirations, leurs tourments et ce truc mystérieux que l'on appelle le sens de l'humour. Pendant une journée, qui doit se clore sur le spectacle de fin de semestre, il se passe beaucoup de choses dans et en dehors de leur tête. Nouvelles éthiques du rire, limites à repousser, respecter ou franchir, liens amicaux, amoureux ou filiaux, rapport au langage et temps qui passe. Il se peut que vos personnages soient simplement en train de chercher des inconnus à qui parler. C'est le titre de votre roman paru en cette rentrée aux éditions de Noël et on en parle avec vous, Camille Bordas, avec ce premier extrait qu'on va lire pour planter le décor.
Ashby s'était juré de ne jamais laisser sa vie d'enseignant empiéter sur sa vie d'humoriste. De ne jamais devenir comme ses profs de création littéraire qui, une fois devenus profs, ne pouvaient plus écrire que des campus novels. Ce n'était pas facile, mais il s'y était tenu. En tant que fondateur du premier master de stand-up du pays, Ashby aurait pu être un pionnier du sketch de campus, le premier à faire certaines blagues, mais il s'y était abstenu. À présent que ce type d'études pullulait bien au-delà de Chicago, les vannes sur l'enseignement du stand-up étaient devenues monnaie courante. Les humoristes profs se moquaient régulièrement sur scène de leurs étudiants, ou du milieu universitaire en général. Ils raillaient ouvertement le concept même d'enseignement du stand-up, l'idée qu'on pouvait apprendre à devenir drôle, tâche impossible. Et ils jetaient leurs propres étudiants en pâture au public pour illustrer leurs propos, citant les pires blagues qu'ils avaient entendues en classe, tout en acceptant de bon cœur le salaire généreux que leur versait chaque mois l'université. Ashby refusait d'aller chercher chez ses élèves sa matière première. Pour lui, on était proche de l'abus de pouvoir. Mais il se rendait bien compte que les gamins aimaient ça, qu'on parle d'eux sur scène. Mieux valait être moqué sur scène par un comédien célèbre plutôt que de ne pas être mentionné du tout. Ashby avait hâte de prendre sa retraite.
On l'entend dès le départ, Camille Bordas, le ton est un peu désabusé. C'est Ashby qui nous présente ce fameux master de, j'allais dire de création littéraire, d'enseignement de l'humour et l'espèce de décor pseudo-universitaire dans lequel va se tenir tout votre roman. J'ai évoqué cette référence littéraire qu'on appelle le campus novel. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça faisait partie d'une des tentatives d'écriture et d'un désir d'écriture? Qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, et qu'est-ce que ça vous permet de traiter d'emblée?
Eh ben en fait, je me rendais pas compte que j'écrivais un campus novel avant. Enfin, je suis assez lente à comprendre ce que je fais. Je suis pas fan des campus novels. Donc c'est des romans qui se déroulent sur, en général, qui mettent en scène des professeurs, souvent le professeur désabusé dont on a pu entendre, enfin pas la voix puisque c'est la troisième personne, mais oui, des professeurs qui en ont un peu marre d'enseigner à des jeunes qui, voilà, tous les ans, des têtes différentes, la même énergie ou absence d'énergie. Et c'est vrai que moi. Bon, après, j'ai beaucoup aimé la tâche de Philippe Roth ou de quelques livres comme ça, mais c'est pas un genre que j'étais, voilà, vers lequel j'étais attirée d'emblée. Mais moi, ayant commencé à enseigner il y a 7 ou 8 ans aux États-Unis, c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses pas à moquer, mais à pointer du doigt, notamment le type de professeur un peu cynique, parce que moi, je suis pas du tout cynique dans l'enseignement. J'adore enseigner l'écriture. Je pense qu'il y a des choses à apprendre à des jeunes étudiants qui n'ont jamais essayé d'écrire ou qui lisent pas beaucoup. Donc, ouais, je voyais encore la beauté là-dedans. Enfin, je la vois toujours d'ailleurs. Je suis pas au stade des profs dont je parle, mais c'est vrai que je vois beaucoup de cynisme, beaucoup de gens qui ont plus trop le feu. Et donc, oui, voilà, c'est un personnage un peu. Voilà, c'est un personnage qui existe, voilà, les personnages d'Ashby.
Et en plus, il y a quelque chose dans la qualité de relation qui existe dans l'enseignement qui permet de traiter plein de choses. On l'entendait dans l'évocation de Ashby, par exemple, la question du pouvoir. Alors lui, il disait c'est une forme d'abus de pouvoir de parler de ses propres élèves sur scène. Oui. Mais finalement, le pouvoir, la passation, la filiation, la transmission, la camaraderie pour ce qui se passe entre les étudiants. Enfin, on sent d'emblée qu'il y a une sorte de multitude de thématiques que vous allez pouvoir aborder tout de suite.
Oui, elle permet beaucoup de choses. Enfin, oui, ce décor permet énormément de choses. Et puis c'est des étudiants qui sont un peu plus âgés que les miens, c'est des étudiants en master, donc oui, 25-26 ans, c'est des gens qui sont déjà, donc qui sont plus chez leur famille, qui cherchent voilà à fonder, à vraiment vivre de leur propre plume, entre guillemets, enfin oui c'est leur plume d'ailleurs, mm-hmm. parce que voilà, d'écrire des sketchs, c'est surtout écrire, hein, avant de monter sur scène, c'est des gens qui ne font qu'écrire, en fait
pas impossible que ce soit un roman sur l'écriture.
Oui. Ça permet d'évoquer beaucoup de choses, oui, de voler de ses propres ailes, de trouver de nouveaux mentors. Ça permet de parler, il y a des profs qui n'ont pas d'enfants et donc qui voient un peu la possibilité d'une filiation dans leurs élèves, par le biais de leurs élèves. Donc oui, c'est hyper ouvert en fait. Ça peut être un roman de famille. D'habitude, j'écris sur les familles. Là, je dis, pour une fois, j'écris pas sur les familles. En fait, encore, j'écris sur.
Au final, il y a quand même plein de. Même il y a un moment donné où arrive avec le personnage de Manny et son fils des questions purement de liens filiaux, mais. Ouais. En effet, dans la façon dont vous dépeignez cette journée, et on va en venir à la construction temporelle, il y a quelque chose qu'on appelle la grande famille. Une promotion, c'est la grande famille. Oui. Et vous jouez de ça, Camille Bordas. Peut-être s'arrêter un instant sur l'âge de ces étudiants, donc la fin de la vingtaine. Pourquoi c'est un âge qui vous intéresse? Vous, c'est un moment où vous partez aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, avec quelles questions?
En fait, c'est l'âge auquel je suis partie pour les États-Unis, mais c'est surtout, moi, j'enseignais dans un master d'écriture littéraire, et c'était des gens vraiment très, très doués. C'était à l'Université de Floride. C'était un master très sélectif, donc c'était des gens qui avaient 25, 26, 27 ans, et j'étais vraiment émue par eux, quoi. Qu'on ait des gens dans le monde d'aujourd'hui qui veulent écrire, qui veulent faire ça de leur vie, voilà, qui lisent beaucoup. On va au bar après les cours et on discute de littérature, c'est un bien grand mot, mais même de phrases. Il y a tellement d'élèves, d'étudiants qui m'ont fait découvrir des trucs, et vice-versa, j'espère. C'était quand même le but, moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu. Ayant grandi en France, il n'y a pas de master d'écriture et je ne sais même pas si j'en aurais fait un. Mais de les voir, oui, comme vous dites, cette promotion, voilà, je suis contente quand j'apprends qu'ils sont restés amis, j'en ai marié deux. Enfin bon, c'est beau, quoi, c'est beau la jeunesse qui lit.
Vous avez commencé à écrire plus tôt que eux.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se glisse aussi dans ce roman de votre propre rapport à l'origine de l'écriture, Camille Bordas?
Sans doute, mais l'origine de l'écriture pour moi, ça a toujours été là, quoi. Mais je savais pas
d'ailleurs
comment m'y prendre.
Vous écrivez, vous publiez très tôt. On imagine que vous écrivez encore beaucoup plus tôt.
Bah, en fait, avant, j'écrivais des journaux intimes, des trucs un peu nazes. Mais quand j'ai décidé d'écrire un roman, j'ai écrit mon roman. Voilà. Aujourd'hui, je commence un roman et donc voilà, je suis assez sérieuse. Je crois qu'en fait, j'ai toujours voulu écrire. Je me le suis jamais vraiment avoué. Et puis à un moment, j'ai décidé de. En fait, j'ai compris que si je n'écrivais pas, en fait, que si je commençais par faire autre chose en me disant quand j'aurai à la retraite j'écris un roman, et en fait je crois que j'ai compris très tôt que ça allait demander beaucoup de travail d'écrire un livre, et je rencontre souvent des gens qui me disent qui ont des carrières de complètement autres et qui me disent quand j'aurai le temps j'écrirai un livre. Ça prend du temps, enfin pas juste d'en écrire un, mais de progresser. Moi, je vois que je progresse de livre en livre. Enfin, j'espère. C'est quelque chose de.
Sur quel plan? Comment est-ce que vous le voyez? Vous qui, du coup, avez, même si c'est très difficile d'exercer votre œil de professeur de création littéraire sans vos propres écrits, j'imagine. Mais sur quel plan vous pouvez dire je vois que je progresse?
Eh bien, je vois, par exemple, quand je fais des erreurs, mais quiconque essaye d'écrire un livre se rend compte qu'assez rapidement, on se prend des murs, en fait. On pense aller tout droit vers... Et je pense
vers quoi?
De A à B, C jusqu'à Z, et ça va, tout va découler, cause-conséquence, tout va s'aligner parfaitement jusqu'à une fin complètement sublime et inattendue et en même temps inévitable.
C'est votre plan.
Oui, voilà. Mais je fais pas de plan, cela dit, mais j'ai toujours l'ambition que le livre s'écrive vite et qu'il soit magnifique. Et en fait, entre A et B, déjà, il y a 10 000 problèmes.
De quel ordre?
De l'ordre, parfois ça sonne mal, parfois les personnages sonnent faux, parfois le décor va pas. Enfin, c'est vraiment une mise en scène qu'on se fait dans la tête au fur et à mesure de l'écriture. Moi, c'est vrai que j'ai pas de plan, donc je pars souvent d'une conversation entre mes livres et mes nouvelles. Commence sur des conversations entre deux, trois personnes. Je me dis, mais en fait, qui parle? Où sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Et en fait, c'est des questions que j'ai pas résolu avant de commencer. Donc en fait, si on n'a pas résolu avant de commencer,
il faut
chercher. Et donc voilà, il y a beaucoup de moments de mou. Et en fait, voilà, là où j'ai progressé, c'est que je sais à peu près reconnaître ceux qui valent le coup d'insister. J'abandonne plus rapidement sur les choses qui valent pas le coup. Et je me dis, bon, bah, on reconnaît un peu ce à quoi on est bon.
Vous parlez de moments de mou et la question évidemment du rythme pour des gens qui montent sur scène et qui essayent de faire rire est très important. Vous choisissez une temporalité très stricte pour ce roman. C'est une journée que vous divisez en trois temps qui sont titrés. Ça commence par l'ennemi du rire pour dire à peu près là où on va se situer. Camille Bordas, qu'est-ce que ça vous permet cette temporalité là et en quoi est-ce que la question du temps elle est centrale sans rien trop dévoiler? On termine sur un chronomètre, quoi, un temps qu'on n'a pas vu filer.
Oui.
Voilà, en quoi est-ce que Des Inconnus à qui parler, c'est aussi un roman sur le temps.
Oui, sur le temps et sur le timing. Et sur, mais c'est, pour revenir aussi, c'est aussi une question de faire des progrès ou de se rendre compte de où on va. Mais c'était pas une décision de situer l'action du livre sur une journée. C'est au bout de 70 pages que voilà, j'écrivais ce livre. Et au bout de 70 pages, je me suis rendu compte, il s'est passé 20 minutes. A priori, le livre a décidé... Bon, ça fait un peu New Age de dire ça, mais parfois, le livre prend des décisions pour nous. Voilà. Tous ces personnages que j'ai mis en place et qui ont leurs petites conversations, leurs petits problèmes à résoudre. Voilà, on n'est pas 70, il s'est passé 20 minutes, enfin bon, quelque chose comme ça. Je lui dis, a priori, le livre...
Ce sera pas un siècle.
Voilà, ce sera pas un siècle. Après, on est libre, c'est la littérature. J'aurais pu faire un épilogue 80 ans plus tard. Et d'ailleurs, j'y ai pensé jusqu'au bout. Je me dis, si je faisais un saut temporel. Mais oui, le livre, après, génère ses propres codes. Et une fois que j'ai... Voilà, à partir du moment où je me suis dit, ce sera sans doute une journée, puis même une après-midi, une soirée. Après, du coup, ça a décidé de certaines choses. Je me suis dit, il va falloir montrer la représentation, puisque voilà, c'est à la fin du livre. Ils en parlent depuis le début, donc au bout d'un moment,
le semestre.
Je vais être obligée d'y aller, ce qui me faisait peur, parce que d'écrire, ça impliquait d'écrire beaucoup de sketchs, ni ratés, ni super, parce que c'est des étudiants en humour. Donc, il ne faut pas non plus qu'ils soient parfaits, il ne faut pas qu'ils soient trop nuls, il faut que ce soit crédible, que quelqu'un ait un jour vu quelque chose en eux. Et donc voilà, donc une fois que cette temporalité a été décidée, ça m'a obligée à écrire ça, mais c'est bien aussi, il faut se mettre voilà. Et sur la question du temps, malheureusement, c'est la question centrale en ce qui me concerne, voilà, et puis en ce qui concerne beaucoup de gens, voilà, combien de temps on a sur Terre, combien de temps on a pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, etc., etc. C'est un peu bateau, mais c'est vraiment. Vraiment pour ce qui est de la comédie, le timing, c'est tout, et en écriture aussi, je pense. Moi, j'essaie vraiment. C'est pas une écriture au cordeau, mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup d'adverbes. Je fais
ça semblant. Va vite plutôt.
Ouais. Je fais attention, pas mettre trop de syllabes, pas faire trop de descriptions si elles servent pas directement à la scène. Voilà, je suis un peu à l'économie.
Oui, vous avez commencé par dire et vous qualifiez Camille Bordas comme une lecture impatiente et la fin du roman se termine sur un temps qu'on n'a pas vu passer, qu'on n'a pas vu défiler. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va entendre Lou Trottignon. Elle apparaît dans une série documentaire consacrée par Romain Debecq de Lièvre pour France Culture à l'histoire du stand-up. Elle parle du stand-up au contemporain.
En fait, de manière générale, on peut pas se permettre de critiquer une partie de la population sans critiquer la partie de la population dont nous, on fait partie. Donc, bien sûr, je critique les normes de l'hétérosexualité, mais sans pointer du doigt les personnes hétéros, parce que ça, c'est autre chose. En fait, être hétéro, c'est une sexualité, c'est quelque chose qu'on choisit pas. Par contre, jouer le jeu des normes, on peut le changer.
Je comprends que les gens soient perdus autour de la non-binarité. Ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est maintenant qu'on en parle. Moi, pendant longtemps, j'étais perdue. Moi, quand j'étais petit, ou petite, je ne sais pas. Mystère. Tout en petitesse.
Le regard qu'ont les gens me fait beaucoup rire. Par exemple, quand je dis que je suis non-binaire, donc c'est-à-dire que je ne me reconnais pas tout à fait dans la définition de ce qu'est une femme, la définition de ce qu'est un homme. Souvent, les gens, ils entendent non-binaire, ils sont là, oh là là, non, pas encore, les woke, tout ça. Ou alors, ils sont stressés. Ils sont stressés parce qu'ils sont là, du coup, c'est ils ou c'est elle. Et moi, je rigole de leur panique, parce qu'en vrai, je trouve ça trop drôle qu'ils paniquent. Je suis là, tout fonctionne. Ils paniquent quand même. Du coup, oui, bien sûr, je suis confrontée à ça tout le temps, mais c'est que du matériel pour des blagues, quoi.
Du matériel pour les blagues, c'est quelque chose qui pourrait être directement emprunté à votre roman. Camille Bordas, on entend la voix de Lou Trotignon, donc dans cette série documentaire signée Romain de Bec-de-Lièvre sur l'histoire du stand-up aux États-Unis, mais aussi en France, on entend qu'il y a une question de génération, il y a une question de thématique. Vous choisissez un personnage qui s'appelle Phil, qui est un étudiant woke, qui a décidé que, voilà, avant même de rentrer dans ce master d'improvisation et d'écriture humoristique, il allait diminuer le plus possible les offenses faites à plein de groupes. On sent bien que vous vous amusez de ces nouvelles éthiques du rire. Ça vous permet de penser quoi ?
C'est des questions que je me pose aussi, après peut-être parce que je vis aux États-Unis, de ce qu'on a le droit d'écrire ou pas. Et puis moi, je suis quand même assez ouverte. Je me dis, oui, tout le monde devrait pouvoir écrire ce qu'il veut, etc., dans la mesure. Oui, mais bon, après, c'est vrai que le curseur des offenses bouge tout le temps. Donc moi, ça m'amuse parce que... Enfin, ça m'amuse, c'est pas hyper amusant, mais c'est... Et le rapport entre l'écriture littéraire et l'écriture de stand-up, c'est aussi un peu tester les limites. Mais c'est vrai, je pense que c'est pas foncièrement nouveau que chacun à l'époque à laquelle il vit se dit « Ah, c'est complètement nouveau, il y a des nouvelles frontières à ne pas franchir », mais je pense que à chaque époque, il y a des nouvelles choses que les gens se croient interdits de dire.
Mais c'est pas tout spécialement brûlant en ce moment, notamment dans la société américaine ?
Si,
et que ce serait une sorte, et que la scène humoristique, ce serait une sorte de bon laboratoire pour voir.
C'est un super laboratoire et en même temps, ils sont assez. J'ai l'impression qu'ils sont assez épargnés d'une certaine façon. Bon, après, il y a toujours des comiques qui se prennent un coup sur les doigts, mais ils sont jamais complètement. On comprend qu'ils ont le droit quand même de choquer, que c'est aussi leur job de choquer. Peut-être ils ont plus le droit de le faire que les auteurs, que les chanteurs, que les peintres, que voilà, il y a une espèce de côté sacré du stand-up en particulier, enfin peut-être pas en particulier, mais de l'humour aux États-Unis qui est vraiment le véhicule de beaucoup de choses. Les gens s'informent par l'humour. Personne regarde le journal télévisé, c'est vraiment des sketchs de Jon Stewart, John Oliver, tout ça, c'est des l'infotainment, comme on dit, voilà, c'est pour faire passer des messages, ça passe par l'humour. Donc bon, après oui, Jimmy Kimmel s'est fait virer de son talk show, mais il est revenu immédiatement 5 jours plus tard parce que voilà.
Vous pouvez rappeler pour ceux qui n'ont pas.
Jimmy Kimmel, en fait, moi je connais pas très bien, mais voilà, il y a plusieurs talk shows aux États-Unis, donc des émissions tous les soirs où il y a des invités en général. Des vedettes, pas des auteurs.
Pas vous, quoi.
Pas moi, voilà, je ne suis jamais allée chez Jimmy Kimmel. Oui, voilà, et comme avant, c'était quoi ? C'était Jay Leno. Enfin bon, c'est des... Voilà, c'est...
Des
grandes émissions très suivies. Et voilà, et Jimmy Kimmel avait fait une blague sur Charlie Kirk, qui venait de se faire assassiner. Et voilà, il a été viré... par Trump, et ensuite, il a été remis en place immédiatement. Je crois que oui, les comiques ont cette espèce de passe, on leur donne un peu le droit. Enfin, on leur tape sur les doigts, puis ensuite, vous pouvez revenir, si vous voulez. Mais il y a quand même... vous avez quand même un rôle à jouer dans cette société, alors que les écrivains, peut-être moins.
Mais vous dites, au final, on a l'impression que chaque époque s'étonne de nouvelles limites à franchir, à respecter, alors qu'en réalité, chaque époque a cette chose à discuter.
Oui.
Mais on sent bien que votre roman des Inconnus à qui parler... Entre autres, peut-être, on va dire, sujet plus intime et plus profondément, on va dire, éloigné de l'époque. On sent bien que ça vous intéresse quand même de vous coltiner ça. C'est-à-dire qu'il y a Phil, cet étudiant qui décide, voilà, d'être woke. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez propre à notre 21e siècle. Vous choisissez aussi un personnage de professeur masculin, plus ou moins accusé de faits. On ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas à quel point il serait coupable. Toutes ces choses-là qui agitent la scène du débat contemporain, Camille Bordas, vous les testez, vous aussi, quoi.
Oui,
ça votre roman, c'est la scène sur laquelle vous y allez, quoi.
Ça m'intéresse de les tester, parce que c'est marrant, parce que d'habitude, j'écris pas vraiment sur le monde contemporain, et ce livre, en plus, je l'ai écrit pendant la période Biden. Je pensais que Trump, on en avait fini, et voilà, donc je pensais que c'était un peu, voilà, qu'on était sur la pente descendante, et que ça allait être un peu... pas un résumé, mais voilà, quelque chose, une chose de laquelle on allait s'éloigner. Mais oui, mais le personnage de Phil, il m'intéressait beaucoup, parce que moi, c'est vrai que je suis plutôt... on est libre de tout, et en même temps, c'est pas très intéressant d'avoir dans un roman uniquement mon point de vue, donc j'ai voulu intégrer quelqu'un, voilà, un Phil, et plus je le faisais parler, plus je comprenais ce qu'il voulait dire aussi. Donc c'est aussi Voilà, c'était intéressant pour moi de le faire exister, parce que c'est vrai qu'au début, c'était un personnage un peu... Je dirais pas que c'était un personnage punching ball, mais voilà, je trouvais ça un peu...
Vous étiez éventuellement là pour vous moquer de lui, quoi.
Oui, voilà, voilà. Mais en fait, c'est jamais une bonne idée de se moquer de ses personnages, surtout... Oui, voilà, donc en fait, peu à peu, il a pris de la place et... ouais.
On parlait tout à l'heure de la manière dont vous faites de cette promo un espace quasi familial, Camille Bordas, mais c'est presque aussi un espace kaléidoscopique avec des sortes de miroirs, c'est-à-dire que chacun est là. Encore une fois, la temporalité, elle permet de dire chaque personnage va pouvoir refléter ce qui se passe à sa façon. Et d'ailleurs, vous avez une écriture qui est plutôt très intérieure. Mm-hmm. Ce qui se passe à l'extérieur devient quasi... non pas prétextuel, mais presque, quoi.
Oui, oui, enfin, oui,
on sent
oui.
que ce qui vous intéresse, c'est plutôt à quel point ça les fait vibrer, quoi.
Oui, oui, oui. Oui, c'est, j'ai adoré écrire de cette façon-là, parce que j'étais un peu coincée dans la première personne avec un roman précédent que j'ai fini par pas finir, d'ailleurs. Mais oui, le roman choral, ça m'avait toujours fait un peu peur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait, oui, qu'on pouvait plonger dans la tête de l'un de l'autre et rester clair sur ce qui se passait autour d'eux. Oui, c'est j'aime bien votre façon de le décrire, ouais. Mais c'est vrai que ouais, la facette aussi, sinon.
Ouais, c'est ça.
Parfois, c'était la facette quand j'écrivais.
On va écouter Mélanie qui vous a lu, qui a aimé ce roman et qui vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Camille Bordas. J'ai lu votre livre devant lequel je suis en admiration totale. Finalement, ce qui m'a peut-être le plus impressionnée, c'est les questions profondes en fait que vous mettez en avant. Et ces questions qui traversent le livre grâce au filtre et à la question de l'humour. Donc, par exemple, ce qui renvoie au langage, aux frontières entre le réel et la fiction, au processus de création, aux questions qui traversent vraiment toutes nos sociétés actuelles. Et donc, je voulais vous poser cette question. Est-ce que, finalement, parler d'humour n'est pas la chose la plus sérieuse du monde ? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Mélanie, pour cette lecture et pour cette question, Camille Bordas.
Merci Mélanie, c'est une belle question. Est-ce que ce serait pas la... Pour moi, ça fait partie des questions les plus sérieuses du monde. Mais parler d'humour.
Parler d'humour.
Ouais. C'est vraiment. Enfin.
Pourquoi ? Parce que ça sous-tend quoi cette grande question de parler d'humour ?
Il y a une intelligence qui est reflétée dans l'humour des uns et des autres. Après, moi, c'est vrai que je trouve. C'est peut-être parce que je trouve compliqué de parler d'autre chose. Enfin, non, je trouve ça compliqué de parler d'humour. Mais par exemple, je ne sais pas parler d'amour. Voilà, ça m'intéresse personnellement, mais j'ai pas de discours sur l'amour. L'humour, je pense, m'a toujours intéressée parce que j'en avais pas. Et ma sœur était le clown de la famille, etc. Il y avait plein de clowns dans ma famille. Enfin, de clowns, c'est un peu réducteur. Mais bon, j'étais... complètement impressionnée par les gens qui avaient de la répartie, qui comprenaient les contrepétries immédiatement. J'ai mis comment.
C'est marrant, ça a encore à voir avec la vitesse, je trouve.
Oui. Parce que je me dis, leur cerveau va plus vite que le mien. Alors, je suis aussi hypochondriaque, donc je me dis, peut-être il y a un problème au cerveau. Mais en fait,
vous avez l'air d'aller quand même assez vite depuis le début.
Mais je bosse. Non, mais parce que je pense qu'ils m'ont un peu éduquée à ça. Mais c'est vrai que, une fois encore, j'étais la plus petite. Donc, je voyais, ils avaient un peu aussi des années d'avance sur. Qu'ils avaient un travail qu'ils avaient fait à l'école, avec leurs copains, avec leurs profs. Mais bon, c'est quelque chose qui me fascine. Et oui, il y a beaucoup de choix. On révèle beaucoup de nous dans la façon, dans ce qui nous fait rire et dans les blagues qu'on raconte.
Mélanie disait par exemple que ça vous permettait de traiter, puisque vous disiez vous-même être en appétit dans les romans de réflexion quasi philosophique, ça vous permet de traiter la relation entre le réel et la fiction, ou la projection de la vie contemporaine dans une écriture quelle qu'elle soit. Il y a une scène où il y a un personnage qui fait la liste pour un autre personnage des trucs éventuellement drôles.
Oui.
Donc aussi, qu'est-ce que c'est que d'emprunter au réel, d'emprunter aux autres.
Oui.
Là aussi, c'est une sorte de laboratoire un peu théorique pour vous.
Oui, et chacun a son avis aussi sur ce qui est drôle. Et donc,
sur ce qu'on a le droit de faire.
Oui, sur ce qu'on a le droit de faire, mais aussi sur ce qui est drôle. Parce que moi, il y a des gens qui me font beaucoup rire et je rencontre des gens. Par exemple, Jerry Seinfeld, je voyais un article sur lui, il est vraiment pas drôle. On peut pas vraiment dire qu'il soit. Il fait rire des millions de gens, voilà. Mais il fera aussi pas rire peut-être encore plus de gens, mais bon. C'est surtout aussi à notre époque en particulier. Moi, je voyais je regardais pas vraiment de stand-up avant d'aller vivre aux États-Unis parce que j'ai grandi avec les inconnus, avec les nuls. Pour moi, c'était des sketchs. L'humour, c'était des sketchs. Donc, c'est aussi une scène, quelque chose, où les Monty Python, voilà,
rappeler, d'ailleurs, on l'a pas fait, la spécificité de cette forme scénique, Camille Bordas, du stand-up.
Du stand-up, c'est vraiment du seul en scène, hyper écrit. Enfin, a priori, ouais, ils sont pas hyper fans d'impro. Ils écrivent, voilà. Alors, du stand-up, c'est surtout, je crois que c'est... Gad Elmaleh fait du stand-up ou ça?
Oui, bah il y a plein de gens qui font du stand-up aujourd'hui.
Mais non, mais je connais plus personne.
Non, mais il y a vraiment l'idée d'être debout et de parler en fait.
Oui, c'est seul en scène et donc voilà, sans accessoires non plus, donc
et sans forcément de personnage,
et donc c'est beaucoup de l'observation de la société, c'est beaucoup de commentaires voilà comme disait je pense c'est Lou Trontignon.
Oui, tout à fait.
Oui, voilà que c'est beaucoup de conversations sur les sujets qui passionnent les gens en ce moment. Donc, c'est aussi pour appuyer là où ça fait mal ou là où ça fait rire. En fait, le stand-up et l'humour prennent de plus en plus de place, j'ai l'impression, dans la façon dont les gens s'informent, mais aussi les gens communiquent. Quoi. Voilà, t'as vu ça, ça me fait rire. Mmh. Oui, et donc, ça a un peu pris la place du roman. Ça fait bien longtemps que les gens ne parlent pas du dernier roman de je ne sais pas qui a la machine à café, mais ça a peut-être pris la place des séries télé. Il fut un temps où on disait « Ah, t'as vu le dernier épisode des Sopranos ?» Là, maintenant, c'est « Est-ce que t'as vu le dernier spectacle de, je sais pas, Sarah Silverman ?» ou voilà. Enfin, aux États-Unis, en tout cas, c'est vraiment le stand-up, c'est le dernier bastion où tout le monde a à peu près la même culture, où on voit à peu près de qui on parle quand on parle.
Et ça dit quoi, selon vous? Parce que c'est pas un hasard que vous ayez imaginé ce master.
Non, parce qu'à mon avis, ce master va bientôt
exister. Il va pas tarder.
ça me paraît couru d'avance, parce qu'effectivement, je pense que c'est la forme d'écriture, parce que c'est quand même de l'écriture.
Bien sûr.
Les très bons stand-up sont de très bons auteurs, je trouve. Je leur enlève pas ça. Je dis pas que j'écris mieux qu'eux. J'écris différemment, mais ce sont des très bons auteurs. Et si c'est une forme d'écriture et d'intellect auquel les gens peuvent encore s'attacher et qui peut prêter à débat et un débat qui soit pas binaire, ça peut encore rassembler. En ce moment, les États-Unis, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà. S'il y a encore un truc s'il y a encore un truc sur lequel on peut dire « Ah oui, mais quand même, tu as rigolé à ça. » Oui, bah oui, c'est vrai. Donc, on n'est pas complètement séparés.
Et d'ailleurs, à bien des égards, plusieurs fois, il y a des conversations, Camille Bordas, dans votre livre, où un, deux personnages, voire un groupe de personnages, s'interrogent sur des mots, des mots utilisés, leur propre rapport à ce mot-là plutôt qu'un autre. Et comme vous dites, s'il y a encore un espace possible pour que le langage soit un endroit de débat et de précision, c'est intéressant. Oui. On écoute un nouvel extrait où, justement, la question de l'écriture est au cœur.
Écrire avait toujours été douloureux pour Dorothy, mais elle avait décidé depuis longtemps de ne jamais l'avouer à personne. Elle pensait que seuls les grands humoristes pouvaient se permettre de faire état de la souffrance de l'écriture et que si elle-même l'évoquait, les gens se demanderaient pour qui elle se prenait. Sa terreur étant de s'entendre dire le cas échéant « Mais pourquoi ne pas laisser tomber si c'est si douloureux ?» D'entendre, ou de comprendre, puisque personne ne le lui dirait aussi directement, que personne ne s'en rendrait compte si elle jetait l'éponge, et que personne ne prendrait un moment pour se demander ce qu'il manquerait si Dorothy Michaels arrêtait d'écrire. Les artistes sont eux-mêmes coupables de ce genre d'exagération, dit Sword. Les comiques, ne disent-ils pas c'était une tuerie après un spectacle réussi? Ou qu'ils sont morts de honte quand une de leurs blagues fait un bide? Ils n'avaient pas tort, mais Dorothy n'avait pas envie de lui concéder le moindre point. Elle regarda son téléphone, espérant apprendre que le tireur avait été appréhendé. Mais le message d'urgence affichait toujours, inchangé, « Tireur actif, mettez-vous à l'abri ».
Le parallèle entre l'écriture romanesque et l'écriture du stand-up est là très présente dans les réflexions à la fois de vous en tant que romancière, on vous entend penser Camille Bordas dans ce livre-là, et à la fois chez vos personnages. Et ici, dans la tête de Dorothy, une professeure, mais elle rajoute quelque chose d'intéressant, c'est que vous tendez l'affaire, vous tendez le temps en soumettant vos personnages à des choses dramatiques.
Oui.
Plus ou moins vrai. Oui. En l'occurrence, par exemple, on verra, mais peut-être il y a un tireur qui est rentré dans, oui. dans l'espace et qui oui. pourrait les menacer. Et là, on entend aussi dans ce passage-là que vous faites un parallèle entre ce que ce serait un bon tir, une bonne vanne, et puis ce que ce serait mourir de rire, et puis ce que ce serait se tuer à la tâche en écrivant. Oui, oui. Enfin, il y a un truc qui vous intéresse entre la mort, la menace et le oui. travail de l'écriture.
Oui. Je sais pas, enfin oui, ça m'intéresse dans ce chapitre en particulier, mais je pense que c'est lié au fait que j'entends souvent des gens dire ça. Enfin, je sais même plus quel exemple, mais récemment j'entendais quelqu'un dire ah oui, j'ai écrit vraiment, j'ai plongé ma plume dans le sang pour. C'est un peu exagéré quand même, mais c'est vrai que du coup moi j'ai plutôt la tendance inverse à dire oh non mais écrire c'est génial, alors que c'est un peu une souffrance aussi quand même. Mais je me voilà.
Vous êtes comme Dorothy, vous ne voulez pas le dire.
Voilà, je veux pas le dire ou je veux pas le dire en termes oui j'écris avec mon sang. Non, il faut pas exagérer quand même. Et puis parce que c'est vrai que c'est quand même une chance d'avoir le temps, d'avoir l'opportunité d'écrire des romans, de les publier. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté où on peut, voilà, c'est un peu mal, voilà, c'est mal à propos de se plaindre ou de dire, voilà, c'est si douloureux. Et c'est vrai que, bon, ça peut l'être, mais il y a une exagération dans le langage, une exagération romantique, voilà, qui me fait rigoler, quoi.
Et alors, qu'est-ce qui vous fait faire planer la mort sur tout ce livre-là, alors qu'ils ont tous 25 ans et qu'ils ouais. sont tous en master? Il y a, voilà, potentiellement un tueur, un attentat qui gronde, il y a une crise d'épilepsie, mm-hmm. Il y a une relation perfide dans la forêt où il faut manier des armes à feu. Il y a quelque chose qui...
Il y a un vieux père sur le déclin.
Qui
aussi.
Pèse, ouais.
Ouais, ouais. Alors,
oui, il y a Mamie qui pèse, oui, voilà, qui peine à retrouver un lien avec son fils.
Ouais. Bah, je pense que ça, c'est, ça fait partie des choses que moi j'aime lire. Enfin, j'aime pas lire sur la mort particulièrement. Il y a pas de mort. Il y a pas de mort. Voilà. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'il y a pas de mort dans un de mes livres. Donc, et je pense que je savais d'emblée qu'il y aurait pas de mort dans ce livre. Donc voilà, je me dis bon, bah, je peux quand même évoquer ces questions. Je pense que dans.
Mais elle menace pour de rire alors.
Elle menace pour de rire, mais quand même je. Voilà, ils sont quand même conscients, ils passent leur temps à écrire, qu'il y a une menace sur... enfin, oui, on parlait du temps qui passe, est-ce qu'on occupe bien notre temps? Je pense que la plupart des gens qui font ça dans la vie ont quand même la notion... Enfin, pensent souvent à ce qui... Oui, enfin, à la mort, pas directement, mais à ce qui peut rester d'eux une fois qu'ils seront partis. Voilà, mais bon, après, c'est aussi, puisqu'on parlait de Thomas Bernhardt... rapidement dans le questionnaire lecture, ça peut aussi être matière à rire, la mort, parce que c'est des choses dont il faut aussi rigoler de temps en temps si possible. Et donc voilà, je pense qu'ils essayent aussi, comme ils veulent rien s'interdire, ou qu'ils essayent de, c'est des petits jeunes, ils essayent de tester les limites et ils trouvent peut-être que c'est nouveau ou voilà, de faire rire avec la mort, alors que tout le monde fait ça depuis toujours. Mais voilà, ils testent un peu ce dont ils sont capables. Et donc, je vais faire rire avec le truc le moins drôle du monde, avec des enfants malades, avec la mort qui plane. Donc voilà, ils sont un peu dans une recherche parce qu'ils passent pas un très bon semestre. Voilà, il y en a aucun qui vraiment sent l'inspiration venir. Donc ils vont un peu au devant de la catastrophe en se disant peut-être si je tape vraiment là où je devrais pas.
Par exemple, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration et un musée à Auschwitz au moment des nouvelles technologies. Voilà. On va entendre la voix de l'écrivain et dramaturge Jean-Claude Grimbert. C'est une archive qui date de 1986 et il évoque deux pièces de théâtre à lui, L'Atelier, qui est une pièce très fameuse, et Dreyfus. Et il raconte son étonnement devant certains rires.
Quand un auteur écrit, il ne s'attend pas à ce qu'une réplique fasse rire tout le monde. Il y a une réplique dans L'Atelier qui m'a beaucoup surpris, qui n'était pas du tout là pour faire rire et qui a fait rire à chaque fois. Et j'ai compris qu'elle était drôle, mais moi, elle ne me faisait pas rire. Il y a une scène où il y a un personnage qui va chercher un acte de décès. Et cet acte de décès remplace un acte de disparition. Et on lui fait le reproche d'avoir accepté un acte de décès où il est marqué « mort à Drancy » et pas « mort en déportation ». Alors on lui dit, mais sur l'acte de disparition, c'était marqué en direction de Bergen-Belsen. Et la femme qui a reçu l'acte de décès dit, sur un acte de décès, on ne peut pas dire en direction de. Alors on lui demande, mais pourquoi? Il faut être plus précis. Et à chaque fois, ce « il faut être plus précis » faisait rire. Alors je crois qu'il y a une relation, c'est pour ça que je parle toujours du rire et des larmes. En fait, dans une pièce comme L'Atelier ou même dans Dreyfus, il y avait une partie de la salle qui riait, une partie, pendant qu'une partie de la salle pleurait. C'est-à-dire que on ne peut pas modifier le vécu de chaque spectateur de manière à ce qu'il n'y ait qu'une réaction.
C'est la voix de l'auteur et dramaturge Jean-Claude Grimbert en 1986. Alors à la fois l'idée que, en effet, il y a une surprise qui vient de la singularité de chacune des personnes qui écoutent le sketch, mais aussi l'idée de la surprise et de la façon dont se côtoient le rire et les larmes. Autant de choses, Camille Bordas, que vous agitez quand même dans ce roman-là.
Oui. Mais c'est marrant, cette archive. J'ai fait une lecture il n'y a pas très longtemps d'une de mes nouvelles en public et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on rie à un moment. Bon, après, je suis un peu plus. Voilà, j'ai un peu roulé ma bosse maintenant. Mais au début, je pense que plus jeune, ça m'aurait choqué ou ça m'aurait déprimé qu'on rie à un moment où il ne fallait pas.
Et vous avez compris ensuite ?
Non, mais c'est
parce que ce que dit Jean-Claude Grimbert, c'est qu'il a finalement compris ce décalage. Il faut plus de précision sur un acte de décès qui remplace un acte de disparition. En effet, on voit le décalage dans le langage. Vous avez compris dans ce cas-là ?
Non, j'ai pas tout à fait. Enfin, si, j'ai compris, mais c'était pas aussi dramatique non plus. C'était sur des questions de filiation, etc. Bref, mais oui, je pense que j'avais vraiment, au tout début de ma carrière, j'avais pas particulièrement envie d'être drôle, ni conscience d'être drôle à l'écrit, je veux dire. Et c'est vrai que je suis pas là au-dessus de l'épaule de mes lecteurs pour voir ce qu'ils pensent du livre. Après, on m'envoie des mails de temps en temps.
Mais là, ça vous fait plutôt, ça vous plaît plutôt qu'on
ça
se
me
dise...
plaît plutôt, oui, parce qu'en fait, c'est vraiment absurde d'avoir eu peur d'être drôle au début, parce que moi, je n'aimais que des livres, enfin, pas des livres forcément comiques, mais dans tous les livres que j'aimais, ado, jeune adulte, il y avait toujours, des moments où ça me faisait rire, voilà. Il y a donc un livre sans humour. Après, il m'arrive de temps en temps d'aimer des choses sans humour, mais bon. C'est quand même beaucoup plus rare. Oui. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais cette hantise de faire rire, alors que tous les livres que j'aimais me faisaient rire. Voilà.
Et là, vous y êtes quand même allé les deux pieds dedans. Et donc aussi avec l'idée qu'une partie de votre écriture devait être drôle. Parce que tous ces jeunes gens qui se disent « Ah, il va falloir être drôle », c'est quelque chose que vous avez du coup vécu dans l'écriture ?
Oui, alors ça, c'était compliqué. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Mais bon, après, c'est vrai que comme c'est des étudiants et qu'ils sont un peu à la peine là.
Ils ne sont pas obligés d'être extraordinaires.
Oui, voilà. Et puis, il y a de l'humour aussi dans l'échec. Donc voilà, il se plante quand même pas mal et donc ça charrie ses propres rires. Mais c'est vrai que oui, après c'est pas purement une comédie, c'est pas vraiment une comédie, voilà. On parle beaucoup de choses sérieuses, pas juste à amener sur scène, mais dans leur vie, il se passe pas mal de choses pas toujours roses. Mais oui, donc je voudrais pas dire que c'est une comédie, ça n'est pas une comédie, mais
Mais vous avez par exemple cherché des punchlines, vous êtes amusé à avoir des phrases qui claquent.
Oui, alors ça c'est marrant parce que je trouve que les meilleurs que j'ai pu trouver c'était vraiment
dans le fil de l'écriture.
Après oui, dans les dialogues entre eux quand ils se cherchent, parce que c'est des étudiants quand même qui vont beaucoup se chercher et se charrier, etc. Donc c'est des dialogues qui sont très très drôles à écrire et voilà, où je fais beaucoup de coupes aussi. Voilà, j'écris 5 pages de dialogue et je garde 5 lignes, voilà. Et donc les 5 lignes sont, du coup on a l'impression que c'est des snipers, voilà, ils font que des bonnes blagues. Et oui, c'est un peu leur tragédie. Je les trouve assez drôles entre eux, en dialogue. Et puis une fois qu'ils montent
sur scène,
tout part, tout s'envole.
Le book club continue. Ouais. Et à cette heure-ci, dans le book club, on tient un agenda. On essaye tous les jours ou presque. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com pour partager avec nous des événements, des festivals, des lectures, tout ce qui a trait au livre, à la lecture et à l'écriture. On vous parle là, puisqu'on a beaucoup parlé de scène avec Camille Bordas, d'un stage de théâtre. Ça a lieu à Nantes. Ça s'appelle Livre en scène. C'est du 27 au 30 octobre. Donc c'est pendant les vacances scolaires. L'idée, c'est de découvrir le théâtre par la mise en espace de livres jeunesse, de jeux et d'exercices autour de la voix et du corps dans l'espace, mais à partir d'albums jeunesse, autour des livres en scène, donc ces livres jeunesse adaptés pour la scène. La compagnie L'Atelier du Livre qui rêve propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens. Pendant une semaine, la compagnie s'installe au ciné-théâtre Bonne Garde à Nantes avec ses malles remplies d'histoires, décors et costumes, et je crois que l'âge de départ, c'est à partir de 5 ans. On verra, on mettra tout ça sur la page du Book Club France Culture.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et c'est l'heure du grand jeu des pages musicales, Camille Bordas. L'idée, c'est de chercher de la musique dans tous les livres qu'on lit. On propose aussi à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous. Ils sont en train de lire un livre et dès qu'il y a l'évocation d'un air musical, même le plus fin, ils nous envoient une photo de la page qu'ils sont en train de lire, ou bien via le compte Instagram du Book Club, ou bien via toujours cette adresse mail, lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, c'est nous qui avons joué. On a donc choisi un extrait de Des Inconnus à qui parler. On se quitte avec un extrait de votre roman. Phil avait des palpitations dans les oreilles depuis un moment. Il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente, ayant répété son sketch sur Aristote jusqu'au petit matin. Il n'aurait peut-être pas dû prendre le comprimé d'Adderall que lui avait donné la fille du Second City dans les toilettes. Peut-être qu'elle l'avait mélangé à autre chose. Peut-être même que ce n'était pas de l'Adderall. « Je me sens pas très bien, » dit-il à Ashby. « Il me faut un verre d'eau. » Dorothy lui tendit le sien, elle n'y avait pas touché. Elle regarda Phil le boire d'une traite. « Conte partiro » s'acheva. « Moi, je préfère quand les chansons se terminent en douceur, » dit Phil. « Ça se fait encore ou c'est passé de mode ?»« Ça veut dire quoi, en douceur ?»« Genre comme si quelqu'un baissait le volume, vous vous souvenez ?» Time of my life, tout ça là, comme un fondu enchaîné. On a l'impression que la chanson continue, qu'elle s'en va plutôt qu'elle ne s'arrête, qu'elle va voir ailleurs si on y est. T'es défoncé ou quoi ? Demanda Ashby. Non mais je dis juste que la fin de Conte partiro est un peu too much, avec la dernière note de chant soutenue, hyper dramatique, et puis le dernier ding de violoncelle comme un point final. C'est trop propre et net, je trouve. Nous transmettrons ta critique à Andrea Bocelli, dit Dorothy.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancano le parole. Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì,
on a dit qu'il y avait une part générationnelle quand même dans ce roman, Camille Bordas, Des Inconnus à qui parler. C'est pas rien quand même d'entendre Conte partiro.
Oui. Mais alors c'est marrant, je sais pas si c'est si connu aux États-Unis, mais oui, moi c'est tout.
Je me suis demandé,
j'aurais dû regarder, mais je me suis donné cette liberté.
Mais je me suis demandé parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez vous-même traduit le roman depuis l'anglais jusqu'au français. Et je me suis dit, est-ce que le Conte partiro, vous l'avez transposé vers le français, ou est-ce que dans la version américaine, il y est aussi ?
En fait,
parce que ce duo, c'est vraiment la radio et la télévision de la fin des années 90 en France.
Oui. Mais je me souviens maintenant que j'y pense, en fait, c'est dans un épisode des Sopranos. Je sais pas si je pense. pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont vu Les Sopranos, qui est une très très bonne série. Et à un moment, Carmela, la femme de Tony Soprano, écoute Conte Partiro en boucle. Et donc ça a percé au moins dans la communauté italo-américaine. Je pense que les gens l'ont entendu. Après, je ne sais pas si en dehors des italo-américains, la chanson a connu un bel...
Ça les rendra curieuses. Ouais, ouais. Curieux. Merci beaucoup Camille Bordas. Merci. Des Inconnus à qui parler, apparu aux éditions de Noël. Au son, grand sourire hein, du côté de la région. En fait, ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Les gens dansent presque. Florent Bugeaud, en tout cas, qui est de passage. Il lève les bras. Il fait des bisous. C'était Noé Chaban qui était au son à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand. Vous pouvez continuer à parler de Conte Partiro et du reste sur le compte Instagram de l'émission Le Book Club.